Accéder au dossier complet, pour une refondation du système de santé, le collectif de professionnels et de patients pour la refondation de la santé, liste complète des signataires ici. www.cpprs.fr. L'accès de tous à des soins de qualité est notre bien commun. Le système de santé doit être refondé pour réaffirmer cette valeur première. Nous proposons ici un schéma novateur d'intégration de l'offre au niveau des territoires, le service de santé d'intérêt général, SIG. Dans les territoires, l'intérêt général impose d'intégrer les trois composantes de l'offre de soins qui diffèrent aujourd'hui par leur statut, les établissements publics, hôpitaux, centres de santé et structures de prévention en santé, les établissements privés à but non lucratif et les professionnels libéraux pratiquant les tarifs conventionnés. Intégrés au niveau des territoires, ils formeraient ensemble le service de santé d'intérêt général, instaurant la graduation des soins entre le premier recours généraliste, le second recours spécialisé ambulatoire et le troisième recours spécialisé en hospitalisation. Ce service intégré devrait promouvoir le travail en équipe pluriprofessionnelle, notamment avec des assistants médicaux et des infirmiers de pratique avancée, bénéficier de lieux partagés, centres de santé, maisons de santé et communautés professionnelles de territoire. Avec un financement diversifié favorisant le partage des tâches et la coordination, notamment pour la prise en charge des maladies chroniques et pour les missions de santé publique, il serait co-géré au niveau du territoire entre les délégations des ARS, les collectivités territoriales, les représentants des professionnels et des usagers. C'est le rôle de l'État de répondre aux déserts médicaux par la création de centres publics de santé et de bloquer le développement de la financiarisation et de l'ubérisation en cours de la médecine libérale, remettant en cause l'égalité des citoyens face à la maladie et menaçant la souveraineté sanitaire du pays. Comment en est-on arrivé là? Lors du débat sur l'Obamacare, le New York Times s'interrogeait pour savoir quel était le meilleur système de santé. Il hésitait entre l'américain ou l'anglais, et répondait finalement, le système français. Il plébiscitait notre système mixte à la fois public et privé face au système anglais très étatique et au système américain très libéral. Mais cette mixité qui fut notre force devient aujourd'hui notre faiblesse parce qu'elle conduit à une coupure entre l'hôpital et la ville, entre les médecins et les paramédicaux, entre les généralistes et les spécialistes, entre les professionnels pratiquant les tarifs réglementés et les spécialistes demandant des dépassements d'honoraires. Ces antagonismes sont devenus des obstacles à la prise en charge des 21 millions de personnes atteintes de maladies chroniques, à la réalisation des missions de santé publique comme on l'a vu lors de la pandémie de la COVID-19, à l'organisation de la permanence des soins dont témoigne la crise des urgences, à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé aggravées par les déserts médicaux. Cette division historique se retrouve dans une gestion séparée, l'hôpital par l'État et la ville par l'assurance maladie, et dans un financement mixte d'une part par l'assurance maladie, et d'autre part par les assurances privées complémentaires. Ce double financement engendre des frais de gestion colossaux dépassant les 18 milliards d'euros, dont 7,6 milliards pour les complémentaires, nous plaçant en la matière au deuxième rang des pays de l'OCDE, derrière les États-Unis. Cette séparation menace aujourd'hui notre système de désintégration, favorisant l'ubérisation des professionnels médicaux et paramédicaux par des plateformes de prise directe de rendez-vous et l'extension de chaînes internationales d'établissements de santé, cliniques commerciales, EHPAD, centres de santé, centres de biologie, centres de radiologie, ayant pour actionnaires des fonds d'investissement et des fonds de pension. Il est urgent d'œuvrer à l'intégration de notre système de santé d'intérêt général sur la base d'une règle éthique et économique commune, le juste soin pour le malade au moindre coût pour la collectivité, tout ce qui est nécessaire pour le patient au moindre coût en termes d'actes, de prescription, de suivi, mais aussi d'organisation et de protection de l'environnement. L'intégration concernerait cette mission partagée. La permanence des soins, la continuité, adaptabilité, neutralité, la non-sélection des patients, l'égalité d'accès à des soins de qualité, le respect des tarifs officiels, absence de dépassement d'honoraires, la prévention et la protection de l'environnement. L'intégration concerne donc les établissements et les professionnels répondant à ces missions de service public indépendamment de leur statut de propriété, à savoir 1. Les hôpitaux publics, les centres publics de santé et les structures publiques de prévention 2. Les établissements privés à but non lucratif dits d'intérêt collectif, ESPIC, autrefois qualifiés de participants au service public, PSPH, ainsi que les centres de santé gérés par des sociétés à but non lucratif 3. Les professionnels libéraux installés en secteur 1 sans dépassement d'honoraires et participant à la continuité des soins qu'ils exercent de façon isolée ou regroupés en équipes pluriprofessionnelles au sein des maisons de santé. Le service de santé d'intérêt général, SIG, intégré à le devoir d'offrir globalement un éventail de soins exhaustifs au moins au niveau de larges territoires sous-régionaux ou régionaux. L'intégration de ces trois secteurs, public, privé à but non lucratif et libéral, n'efface pas la diversité des statuts de propriété mais doit remplacer la concurrence par la complémentarité, équivalence des rémunérations des professionnels à qualification et activité comparable, et complémentarité de l'offre de soins. Cette complémentarité doit cependant prendre en compte une différence majeure entre un établissement public et un établissement privé à but non lucratif. L'établissement public peut être mis sous tutelle ou restructuré par la puissance publique tutélaire mais, contrairement à l'établissement privé, il échappe aux lois du commerce, rachat direct ou par le BO, OPA, mise en liquidation judiciaire, faillite. Ainsi, on a vu ces dernières années le groupe Ramsay racheter la Générale de Santé mais aussi des hôpitaux de la Croix-Rouge. Les établissements privés ont donc une obligation de rentabilité financière pour l'établissement lui-même, les privés lucratifs devant en outre verser des dividendes à leurs actionnaires, raison pour laquelle les établissements privés doivent pouvoir limiter le champ de leur offre de soins. Contrairement à l'établissement privé qui peut être obligé d'arrêter son activité pour cause de faillite, l'établissement public de santé ne peut ni choisir son activité ni s'interrompre pour des raisons économiques. Garanti par la puissance publique, il ne dépend pas des lois du marché. La responsabilité de l'État est d'assurer que, sur tout le territoire national, les patients aient accès à des soins de qualité aux tarifs conventionnels. Ne font donc pas partie du système de santé intégré assurant une fonction organique de service public, les cliniques et centres à but lucratif ainsi que les professionnels non conventionnés avec la sécurité sociale, secteur 3. Quant au secteur 2, conventionné mais autorisant les dépassements d'honoraires, il devrait être mis en extinction après révalorisation du secteur 1 et augmentation des aides publiques à la construction d'un service de santé intégré de proximité. Recommandation 1, service de santé d'intérêt général, SIG. Œuvrer à la création d'un service de santé d'intérêt général, secteur 1. Le SIG sera composé de trois composantes. Le service public stricto sensu, les hôpitaux publics, les centres de santé de statut public et les structures publiques de prévention en santé, avec un maillage territorial permettant à tout habitant de pouvoir accéder à une distance raisonnable à ce service public territorial de santé, les hôpitaux privés à but non lucratif, ESPIC, et les centres de santé privés gérés par des organisations à but non lucratif, les professionnels libéraux installés en secteur 1 et participant à la continuité des soins, qu'ils exercent de façon individuelle ou regroupée ou en équipe dans des maisons de santé pluriprofessionnelles. Le SIG organise une offre de soins en secteur 1 sur tout le territoire national, la graduation des soins en trois niveaux, le premier recours généraliste, le second recours spécialiste ambulatoire, médical et paramédical, en ville et à l'hôpital, le troisième recours spécialiste nécessitant une hospitalisation complète, auquel on peut ajouter les centres référents, à l'échelle régionale. Recommandation 2, un SIG intégré dans un territoire, SIG. Créé sur chaque territoire de communauté professionnelle territoriale de santé, CPTS, le service de santé d'intérêt général. Le SIG intègre donc la ville et les établissements au niveau d'un territoire de santé pour une offre de soins en secteur 1 sur la base du juste soin pour le patient au moindre coût pour la collectivité. Ses missions sont deux. Élaborer des projets de santé partagés assurant la cohérence nécessaire entre les intervenants. Définir des parcours de soins fluides évitant la concurrence et la redondance grâce notamment à un dossier médical partagé sécurisé. Contribuer au maintien et au retour à domicile. Organiser la permanence des soins. Proposer des organisations pour renforcer l'offre de soins primaires dans les zones sous-denses, voire fiche 3 services de santé de proximité. La définition des limites du territoire de santé doit être fonctionnelle et correspondre au territoire des CPTS centrés sur le premier recours. Les spécialistes, médicaux et paramédicaux, ainsi que les établissements de santé couvrant un territoire plus large peuvent être membres de plusieurs CPTS. Le coordonnateur du SIG au sein de la CPTS doit être un professionnel de santé du premier recours. Il travaille en lien avec l'ARS qui finance au sein de la CPTS un local et la fonction de coordination. À terme, il conviendrait de permettre à une CPTS d'avoir une offre de services de coordination de type dispositif d'appui à la coordination, DAC. Cela serait un apport considérable et donnerait une forte visibilité à la CPTS tant pour les professionnels que pour les usagers. L'ARS a ainsi au sein de la CPTS un seul interlocuteur porteur du projet collectif pour l'organisation du parcours de soins. In fine, les patients sur chaque territoire peuvent bénéficier de l'offre de soins en secteur 1 du service de santé d'intérêt général indépendamment du statut public ou privé en secteur conventionné. Recommandation 3, travail en équipe. Favoriser le travail en équipe pour la prise en charge des premiers recours en ville. Les nouvelles formes d'organisation des soins de premier recours sont celles du travail en équipe pluriprofessionnelle, que cela soit en exercice salarié ou libéral. L'assurance maladie doit utiliser le levier financier pour favoriser ce type d'exercice, tarification à la capitation ou au forfait, financement des assistants médicaux, forfait structure, locaux et équipements. Les collectivités territoriales devraient participer à ce financement notamment pour l'immobilier professionnel, confère annexe 1. Tarification à la capitation, allocation annuelle d'un financement par patient au médecin qui, en contrepartie, s'engage à prendre en charge et suivre ce patient. Le montant de la capitation varie avec l'âge, l'état de santé, le patient ayant ou non une ou plusieurs maladies chroniques, et le degré de précarité. Tarification au forfait, allocation annuelle d'un financement au médecin pour une mission définie. Une équipe traitante de premier recours est composée de professionnels, médecins et autres professionnels de santé, coordonnée par le médecin généraliste. Elle dispose de l'appui d'un assistant ou secrétaire médical, ou de plusieurs suivant la taille de l'équipe, financée par la Sécurité sociale et tisse des liens avec les professionnels du secteur médico-social. À chaque fois que c'est nécessaire, elle collabore avec des médiateurs ou médiatrices de santé pour aller vers des patients éloignés du soin et avec des patients VES ressources pour l'accompagnement de patients atteints de maladies chroniques. Le travail d'équipe suppose des lieux partagés, MSP et centres de santé, un dispositif d'appui à la coordination intégrée et un dossier médical partagé. Chaque équipe de soins de premier recours choisit ses correspondants de deuxième recours et fixe avec eux les modalités de leur coopération. La limite entre le premier recours généraliste et le second recours spécialisé est en effet variable d'un médecin à l'autre et doit répondre à la fixation individualisée des limites de compétences. Pour les pathologies chroniques complexes ou rares, le malade, en plus de son médecin traitant, doit pouvoir bénéficier d'un suivi par un médecin spécialiste référent selon des modalités définies conjointement. Recommandation 4. Les liens entre la ville et l'hôpital. Créer des emplois à exercice mixte ville-hôpital au sein du SIG et développer les dispositifs d'appui à la coordination. D'une manière générale, il convient de favoriser les liens entre les acteurs de la ville et de l'hôpital par la création d'emplois mixtes ville-hôpital notamment. Pour des médecins spécialistes réalisant des consultations avancées à la demande d'équipes de soins primaires, exerçant en centre de santé ou dans des maisons de santé pluriprofessionnelles pour des médecins généralistes ou des professionnels coordinateurs de parcours à exercice mixte ville-hôpital organisant les parcours de soins des patients, en aval et en amont de services MCO, et l'accès à un médecin traitant. Ces postes doivent bénéficier d'un financement spécifique pérenne par l'assurance maladie, dédié à l'intégration. Les dispositifs d'appui à la coordination, DAC, devraient être au service des CPTS, de ces acteurs de la ville et de l'hôpital, et des patients. Il convient de les développer. Recommandation 5. Gouvernance. Associer à la gouvernance des ARS une implication des collectivités territoriales. La gouvernance administrative territoriale du SIG doit relever des ARS et des collectivités territoriales contribuant au financement, en concertation avec les représentants des CPTS et des usagers. Le financement au sein des territoires de santé doit appliquer le principe de l'universalisme proportionné prenant en compte l'inégalité des besoins des populations pour tendre vers une égalité plus réelle. Universalisme proportionné, il s'agit de développer des actions universelles mais avec une intensité proportionnée au degré de défaveur sociale. C'est un des principes fondamentaux de la réduction des inégalités sociales de santé. Des contrats peuvent être passés entre les ARS et les établissements à but lucratif sur des activités faisant défaut au SIG. Ces contrats spécifient la nature et le volume de l'activité concernée et impliquent le respect par l'établissement privé des obligations d'émission de services publics. Les spécialistes installés en secteur 2 peuvent participer de façon contractuelle au SIG pour la part de patientèle qu'ils accepteraient de recevoir sans dépassement d'honoraires, en plus des personnes pour lesquelles les dépassements d'honoraires sont interdits, patients vus en urgence et bénéficiaires de la contribution santé solidarité, CTSS, ou de l'aide médicale d'État, AME. Recommandation 6. Souveraineté. Réguler le développement d'établissements commerciaux. Au nom de sa souveraineté en matière de santé, l'État a le devoir et les moyens de s'opposer au développement d'établissements commerciaux, laboratoires de biologie, cliniques, centres de santé notamment de radiologie, d'optique, de dentisterie, et plateformes numériques diverses, appartenant à des holdings et des chaînes financiarisées ayant parmi leurs actionnaires des fonds de pension et d'investissement internationaux. En utilisant ses prérogatives d'autorisation d'équipements lourds et d'activités, les moyens financiers de la Caisse des dépôts et de la Banque publique d'investissement, l'État peut imposer l'intégration de l'ensemble des établissements de santé dans le SIG soit sous le statut d'ESPIC ou de SIC, soit par intégration au service public. Si besoin, une décision législative devra être adoptée. Recommandation 7. Service d'intérêt général, SIG, de santé de l'enfant et de l'adolescent. Créer un service de santé d'intérêt général de l'enfant et de l'adolescent. Les enfants et les adolescents ont une spécificité qui a amené les pouvoirs publics à créer bon nombre de structures publiques de prévention et de soins, réseaux périnatalité, structures de protection maternelle et infantile, PMI, santé scolaire, intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile, maison des adolescents. Ces structures ont un principe commun qui est de ne pas se limiter à la seule vision biomédicale. Leur approche se veut d'une part globale et généraliste, considérant que la santé et le développement respectent les capacités et rythmes propres de chacun et sont sous la dépendance de déterminants étroitement intriqués, psychologiques, sociaux, familiaux, environnementaux, éducatifs, et d'autre part pluridisciplinaires, associant des disciplines internes au champ de la santé et des disciplines extérieures à ce champ, et pluri-institutionnels, les services de santé interviennent en interaction avec ceux de l'éducation, du social, de la justice, de la culture, des loisirs. Les caractéristiques des problématiques de santé et du développement des enfants et des adolescents imposent la continuité des soins de santé tout au long de l'enfance et une pratique transdisciplinaire et interinstitutionnelle. L'organisation et les faiblesses structurelles de notre système de santé et la persistance d'inégalités sociales de santé manifestes dans l'enfance conduisent à formuler la perspective incontournable de construire un authentique service d'intérêt général de l'enfant et de l'adolescent. Une telle perspective suppose que soit établie une politique nationale de santé de l'enfant et de l'adolescent, par les pouvoirs publics avec l'ensemble des parties prenantes, allant de la définition de priorités stratégiques à l'élaboration des organisations appropriées et à leur coordination. Cette politique nationale doit pouvoir se décliner au niveau local et suppose d'y consacrer les moyens humains, logistiques et financiers adéquats. Le cycle de l'enfant et de l'adolescent pourrait prendre la forme de véritables plateformes unifiées réunissant les multiples acteurs de la périnatalité, de l'enfance et de l'adolescence, pédiatrie et médecine de ville, paramédicaux, maternité et pédiatrie hospitalière, maison des adolescents, intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile, centre d'action médico-sociale précoce, CAMSP, PMI, santé scolaire, santé sexuelle. Il s'agit d'organiser des temps et des espaces nécessaires à la co-construction d'une réponse globale et intégrée aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent, articulée sur la coopération de chacun des contributeurs selon leur mission spécifique, assurant notamment l'effectivité des parcours de santé et la synergie des soins préventifs et curatifs. Le cycle de l'enfant et de l'adolescent aurait vocation à coopérer avec les autres professionnels et institutions du même territoire, de l'éducation nationale, des modes d'accueil, des maisons des parents, des maisons des adolescents, des lieux d'accueil parents-enfants, de l'aide sociale à l'enfance, AS, des services sociaux, des clubs de prévention, de la justice des enfants et de la protection judiciaire de la jeunesse, et tout le secteur associatif, notamment familial. Cette coopération vise à assurer que l'ensemble des politiques et pratiques sectorielles en faveur des enfants soient au service d'une déclinaison optimale des déterminants de leur santé et de leur développement. Les maîtres en jeu de ce projet sont bien de penser, d'accompagner, d'anticiper et de construire les transdisciplinarités et les transitions au cours du cheminement de santé des enfants et des adolescents. Cela trouvera à s'incarner dans des formes laissées aux acteurs locaux, maisons, carrefours, forums de santé et de développement qui leur soient dédiés. Annexe, rémunération des professionnels de santé. Actuellement, les recettes des médecins généralistes proviennent pour 87% de la rémunération à l'acte et pour 13% des forfaits. Il s'agit du forfait médecin traitant, capitation qui ne dit pas son nom, qui est pondéré en fonction des caractéristiques de la patientèle, âge, HALD et statut social. CTMU et AICS, d'un paiement à la performance, ROSP. Rémunération sur objectif de santé publique, d'un forfait structure, équipement du cabinet médical, et d'un forfait d'équipe. Ces forfaits agglomèrent rémunération des tâches et financement des lieux et moyens d'exercice, sans prendre en compte toutes les missions, confèrent encadrées, dont la coordination, entre autres. Les missions du médecin généraliste ont été définies officiellement dans l'article 36 de la loi HPST, promulguée en 2009, art. L. 4131. Les missions du médecin généraliste de premier recours sont notamment les suivantes : contribuer à l'offre de soins ambulatoires, en assurant pour ses patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi que l'éducation pour la santé. Cette mission peut s'exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux. Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social. S'assurer de la coordination des soins nécessaires à ses patients. Veiller à l'application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, en coopération avec les autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient. S'assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé. Contribuer aux actions de prévention et de dépistage collectif. Participer à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l'article L.6314-1. Contribuer à l'accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycle d'études médicales. Il nous semble que les rémunérations forfaitaires pourraient convenir à la plupart des fonctions de soins, mission 1 et 4, à la fonction d'orientation des patients, mission 2, aux fonctions de coordination et de synthèse, mission 3 et 5, aux fonctions de prévention et dépistage collectif, mission 6, et à l'accueil et formation des étudiants, mission 8. La rémunération des médecins pour des tâches précises, astreintes, soins palliatifs à domicile, recherche clinique devrait relever également de forfait. Le paiement à l'acte, quant à lui, pourrait persister pour les consultations d'urgence et de pathologies aiguës pour les patients non connus du médecin traitant, et pour les consultations complexes et très complexes. À terme, on pourrait envisager trois modes de rémunération. Un forfait annuel global, capitation, pour l'ensemble des missions courantes de prévention et de soins, 1 à 6, des forfaits spécifiques pour des missions particulières de santé publique, garde et astreinte, activités impliquant d'aller vers les populations, enseignement, le paiement à l'acte pour les consultations pour des patients non connus du médecin traitant, et pour les consultations qualifiées de complexes ou très complexes. Ces rémunérations doivent être distinguées de la prise en charge du financement des moyens permettant la mise en œuvre de ces missions. Le regroupement des professionnels de santé, 20% exercent en MSP ou centre de santé, financement des locaux, la structuration du travail au cabinet médical et en équipe de santé de proximité suppose, des moyens techniques, outils numériques pour des dossiers partagés / des moyens humains, des assistants médicaux, employés de la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires, CISA, mais financés par l'assurance maladie. Par ailleurs, des infirmières de type à salaire payées par l'assurance maladie participent à ces missions. Il pourrait en être de même pour des infirmières de pratique avancée, IPA, au sein de MSP ou de centres de santé.